Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 148e Comics Weekly. On se retrouve pour une petite heure avec notre sélection comics de la semaine. Au programme, on retrouvera DC avec la sortie du début de Zero Year chez Batman ainsi que la nouvelle série Superman, Superman Unchained. En indé, ce sera la sélection de Flo car lui seul a pu lire du comics indé cette semaine, il n'y a que lui qui a eu le temps. Puis nous terminerons par Marvel avec du Spider-Man, du Wolverine ou du Guardians of the Galaxy. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et bien sûr, Flo.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Copieur.
On va commencer par DC, c'est la sortie de la semaine, le numéro 21 de Batman avec le début de Zero Year. C'est Bruno qui nous en parle.
Eh oui, c'est Zero Year, Zero Year avec Scott Snyder au scénario, Greg Capullo au dessin, avec Danny Mickey à l'ancrage. Donc un arc qu'on nous a annoncé comme étant un arc majeur qui va revenir sur l'année zéro. Ça se passe avant Year One a priori et sur les choses qu'on ne connaît pas sur Batman. Donc un titre qui commence de façon très très mystérieuse. Dans un Gotham, on sait pas trop où on voit le métro qui est où il y a de l'eau dans le métro, il y a des poissons, il y a un enfant qui est dans Gotham City, ça se passe 6 ans avant donc avant et qui chasse des poissons dans le métro. Il se fait attaquer par des sortes de personnages avec des masques bizarres et il est sauvé par Bruce Wayne avec un costume qui n'est pas du tout le costume de Batman qu'il a actuellement, donc un truc complètement bizarre, comme si Gotham était revenu à une époque où il y a plus de technologie, il y a plus rien, c'est très étrange.
Je sais pas, moi ça m'a fait penser au tremblement de terre en fait.
Ouais, voilà, c'est ça, comme s'il y a eu un tremblement de terre. Et voilà, après on a quand même cette apparition de Batman qui est sublime sur une Batmoto avec un costume d'aventurier, la classe quoi. Et après on a on a ce fameux Zero Year qui apparaît comme au cinéma avec l'écran titre. Et après on revient sur la suite de l'épisode de Batman Zero de l'année dernière. Avec le gang du Red Hood, on en apprend un petit peu plus sur qui ils sont, on a la fin de cette fameuse poursuite où Batman avait réussi à récupérer le camion du gang du Red Hood. Voilà, c'est assez bien écrit, il y a pas mal d'humour, il y a une case qui m'a fait mourir de rire.
Voilà, on comme tu l'as dit, c'est un arc majeur quoi.
Ouais. C'est ça. On voit un Bruce qui n'est pas encore vraiment Batman, qui a Alfred. Et ça fait que 6 semaines qu'il est rentré à Gotham. Tout le monde le croit mort. Il y a Alfred qui essaye de le dissuader de faire un peu le vigilante dans la ville. Et lui, il a décidé de mettre fin au règne de ce gang du Red Hood. Il veut déterminer qui est le chef du Red Hood. Voilà, et on a l'apparition d'un autre méchant majeur de Batman un petit peu plus tard. C'est plutôt plaisant à lire, c'est du Capullo très clair, ça change vraiment de ce qu'on avait jusqu'à présent. Ça se passe presque tout 2 jours, donc ce qui fait bizarre pour du Batman. Mais non, c'est un bon point d'entrée. Après, est-ce que ça va être intéressant sur la longueur, sachant que ça va durer quand même 1 an, je sais pas trop. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, les gars.
Flou. Il a placé quand même des petites pistes, notamment dès le début, c'est quand même assez étrange. Donc c'est vrai qu'il place quand même ses pions pas mal, et je trouve ça très frais, le fait de voir un jeune Bruce, comme ça. Déjà, physiquement, Capullo au dessin a fait un effort vraiment pour le rendre plus jeune. Et je trouve ça assez sympa, les débuts d'Alfred aussi, dans le rôle de un peu sidekick, c'est pas mal. C'est toujours bien écrit parce que c'est du Scott Snyder, quoi. C'est très bien dessiné et on sent effectivement qu'il y a un souffle, comme le dit Steve, un arc majeur, quoi, avec cet écran, cette page de présentation, etc. C'est très cinématographique. On sent qu'on rentre dans un truc qui sera important et voilà.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les allers-retours dans le passé, en fait. Oui. Puisqu'on voit... Bon, déjà, c'est entièrement dans le passé, mais on est à différents moments du passé. On va se retrouver un moment, et puis on va revenir encore en arrière. On va revenir encore en arrière avec l'enfance de Bruce, sans nous prévenir d'ailleurs. Enfin, ou presque... Pas oui. Presque sans nous prévenir, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça rompt un petit peu la narration classique, et bah, ça fait du bien. Effectivement, c'est très clair, comme tu l'as dit, Bruno. Mm. Et ça, c'est aussi très plaisant. Ça change.
Ouais, c'est clair.
C'est parce que c'est le début. Je pense qu'après, on va se diriger peu à peu vers la nuit, vers le sombre. Mais oui, voilà, ça fait du bien d'avoir du Batman un peu clair, quoi. Enfin.
Bah, les fonds sont blancs. Les fonds de page sont blancs quand il n'y a pas de dessin. Mais c'est vrai que c'est, ça saute aux yeux, quoi. Quand on sort de Death of the Family, ça saute aux yeux, quoi. C'est vraiment très différent.
Ça fait du bien, justement.
Parce que c'était
vraiment très sombre depuis le début, et là, enfin, on respire un petit peu. Non, c'est frais, c'est bien raconté. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu gênants, enfin, qui, moi, m'ont paru gênants, en tout cas, notamment cette espèce de boule caméra, là.
Ouais.
Parce que ça reste comme une technologie assez avancée, et sachant qu'on voit un jeune Bruce, mais vraiment un très jeune Bruce, ça se demandait si Batman ne se passe pas dans le futur, finalement.
Ouais, parce que c'est exactement les mêmes trucs qu'il y a dans Prometheus, quand ils,
ils
investissent les caves et tout pour déterminer... Enfin, c'est un truc, vraiment une technologie de fou, quoi. Donc,
Alors, je veux bien croire que Lucius Fox est balèze, mais enfin, quand même.
Ouais. Et il y a un truc, moi, que j'ai trouvé bizarre, je sais pas si vous avez trouvé ça aussi bizarre, mais c'est ce symbole R sur les casquettes qui revient, c'est le symbole de Robin. Et je sais pas, moi ça m'a choqué. Je sais pas d'où ça vient, si le R c'est censé représenter quelque chose, mais
oui, je sais pas, oui, ça casquette.
Parce que c'est exactement le logo Robin, enfin du Robin classique, quoi. Et
mais justement, je pense que Snyder nous pose quelques petites pistes, à savoir de pourquoi Robin aura choisi le nom Robin finalement. Est-ce que ce sera pas Bruce qui lui aura donné le nom de Robin et justement nous donner une explication de pourquoi Robin.
Ouais, bah, non, mais ça m'a surpris, moi.
Bruce porte la casquette de son père. Il porte la casquette de son père, donc c'est très curieux.
C'est assez surprenant, mais je pense que, comme tu dis, c'est des indices qui sont placés, mais...
Bah, parce que, franchement, quelle était la logique d'avoir un petit moineau avec une chauve-souris? Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de grosse logique. Bon, il aurait pu s'appeler, je sais pas moi, Bad Boy.
Ouais, c'est clair.
Donc peut-être que là, il va nous expliquer, et ce sera peut-être pas plus mal, après tout, on verra.
Je sais pas, ouais. Moi, c'est mystérieux, parce que il me semblait que dans un numéro de Robin récemment, on avait eu une autre explication sur l'origine de son nom. Donc...
Ouais, mais après, si c'est pas Snyder, ça compte pas.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
c'est un petit peu le problème, quand même.
Donc voilà, bah, on est parti pour un an de zéro hier, et voilà, ouais. un arc majeur.
C'est un petit peu le problème, par contre, c'est de se dire que ça va durer un an.
Ouais, on sait pas comment ça va se développer, quoi.
Honnêtement, moi, ça me gonfle déjà, même si le numéro est excellent. Moi, ça me gonfle déjà de me dire qu'on est parti pour un an d'histoire comme ça, quoi. Je me dis, ça va être long, quoi. Ça va être très très long. Alors, j'espère qu'on restera pas que 5 ans en arrière, qu'on va remonter un petit peu dans le temps, parce que sinon, on va se faire vraiment chier.
Il y a un truc bizarre dans ce numéro, c'est, je sais pas si vous avez pensé comme moi, mais le cliffhanger se trouve au début du comics, en fait. Parce qu'au final, la fin est plutôt, voilà, il n'y a pas vraiment de grosse surprise. Mais par contre, c'est vraiment le début, moi, qui m'a fait me demander, mais comment on en est arrivé là et tout. Et,
bah, voilà,
il a fait le cliff à l'envers.
Rappelle-toi The Wake.
Ouais, c'est un peu, oui, c'est vrai, bah, c'est exactement la même écriture que The Wake.
C'est un truc totalement, c'est vraiment la même écriture.
Ouais, j'avais pas pensé au parallèle, mais c'est exactement pareil que The Wake, effectivement, le numéro 1.
Et vite fait, le backup dessiné par Raphaël Albuquerque et écrit par Scott Snyder et James Tynion IV. Oui, c'est anecdotique, hein, ça raconte une petite aventure au Brésil, alors c'est marrant de la part de Raphaël Albuquerque de dessiner.
Comment Bruce est devenu un bon pilote?
Voilà, une petite aventure à Rio. C'est très joli pour les dessins, après ça fait pas de mal du tout.
Hein, ouais, moi j'étais déçu, hein, parce que Ah ouais, moi j'ai été déçu parce que ça aurait mérité peut-être d'avoir un peu plus de développement, parce que là c'est vraiment trop rapide.
Non, je sais pas, enfin ça montre une autre facette de Bruce, qui n'a pas hésité à fricoter avec des criminels pour apprendre des choses, tout en faisant respecter la justice.
Ça montre des petites choses en dehors de Gotham, mais c'est assez cool, quoi. Après c'est pas
mais faut m'expliquer quel est l'intérêt qui rentre dans un bâtiment comme ça et qui défonce tout, mais bon. C'est pas grave.
Bah, l'intérêt, c'est d'éviter des pertes.
Ouais. Non, moi, j'ai pas trop aimé, moi, la fin, par contre. Le backup. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même un bon comics avec une très jolie couverture, un petit peu relief, et puis un peu cartonné.
Ouais. Moiré.
Ouais, c'est très sympa. Ouais.
Donc finalement, un gros bail pour tout le monde.
Oh bah ouais. Oui, un gros bail.
On va passer à la suite, justement, c'est l'autre grosse sortie de la semaine, peut-être même la plus grosse sortie de la semaine, finalement, puisque c'est la nouvelle série de Superman. Flo, tu nous en parles.
Oui, tout en papier glacé, en poster, en cartonné, en tout ce que vous voulez, à $5. Écrit par Scott Snyder, dessiné par Jim Lee, évidemment, ancré par Scott Williams, comme d'habitude, et le backup est par Scott Snyder et Dustin Nguyen. Ça ouvre sur un Superman en mission en orbite terrestre, en train d'essayer d'éviter que plein de satellites humains et des genres de bases spatiales se plantent sur Terre. Il sait pas qui a fomenté ce vilain coup pour essayer de balancer les stations spatiales sur Terre et tuer plein de gens. Mais en gros, voilà, on le retrouve en train de se battre avec une grosse station spatiale, essayer d'en extirper des astronautes et essayer d'empêcher qu'elle se plante loin d'une des habitations, quoi, de la population. Donc c'est ce qu'on voit en couverture, quoi, ce Superman qui arrache des trucs dans l'espace, très puissant. Et bon, jusque là on se dit bon bah ok, d'accord. Et il se trouve qu'il a oublié une base spatiale qui s'est échouée quelque part dans l'océan, et il va enquêter. Et il va se rendre compte que, enfin non, il va se rendre compte, on ne sait pas d'ailleurs s'il se rend compte. Mais derrière tout ça, il y a le général Lane, il y a l'armée. Il pensait qu'il y avait Lex Luthor, mais on ne sait pas s'il y a Lex Luthor. Et voilà.
C'est surtout que quelqu'un d'autre a arrêté cette station.
Oui, c'est ça. C'est que lui, il pensait que c'était Lex Luthor avant tout, et que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et donc voilà. C'est du bon Jim Lee au dessin, je trouve. Après l'histoire, je sais pas trop. Ce qui nous est introduit, on peut pas le révéler, la menace qui nous est introduite, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est un truc qui a déjà été fait de nombreuses fois chez Superman, ou si c'est un truc original. Pour le moment, je sais pas. Je sais pas sur quel pied danser.
Moi, j'ai quand même l'impression d'un truc original, ne serait-ce que par les deux, trois premières pages, qui nous montrent des choses qui se passent en 1945.
Oui, c'est vrai. J'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que on a un truc qui est en rapport avec l'armée américaine et en rapport avec ce qui s'est passé en 45, notamment à Nagasaki, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est intrigant, ce truc, cette manière de refaire l'histoire est assez intrigante. On sent que c'est assez assez ambitieux de la part de Scott Snyder. Il prend comme ça à bras le corps Superman, mais pour le moment, c'est vrai que je sais pas. Comme je suis vraiment puceau de Superman. Non, mais c'est vrai. Hein, j'ai pas lu du Superman depuis des New 52. J'ai lu quelques récits majeurs, mais c'est tout. Et donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ceci dit, c'est quand même vachement bien écrit, je trouve. C'est écrit très différemment du Scott Snyder qui écrit Batman. C'est-à-dire que ici, il fait parler. Beaucoup, il fait beaucoup penser Clark, qui est en narrateur et qui s'ouvre vraiment. Il a une autre narration. On sent que il écrit pas la même personne. Il écrit quelqu'un qui est beaucoup moins renfermé que Bruce Wayne. Donc ça, je trouvais ça intéressant. C'est une autre manière d'écrire, quoi. Après, il y a toujours des tics quand même de Scott Snyder, toutes ces références un petit peu scientifiques, un peu savantes, etc., qui nous met un petit peu partout. On sent qu'il est toujours bien renseigné sur ces sujets. Mais voilà, j'ai trouvé ça très frais.
Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai deux questions. Déjà, est-ce que ça se passe à l'heure actuelle, l'histoire?
Oui.
D'accord,
oui,
ok. Et l'autre, c'est par rapport à ce que Snyder avait fait sur Flashpoint, quand il avait écrit Superman, où il en avait fait un peu un être au service de l'armée américaine. Est-ce que c'est des choses assez différentes, ou est-ce qu'on retrouve un peu ce qu'il avait déjà fait ce moment-là? Il y a des petits clins d'œil un peu à...
J'ai pas lu son Cetaïne à Flashpoint.
D'accord.
Il y a les deux, en fait, de par cette espèce d'être bizarre. Mais en même temps, c'est quelque chose de complètement différent, puisque c'est pas Superman qui est au service de l'armée, du tout.
D'accord, ok. Non parce que c'est ça, quand vous parlez de l'armée, ça m'a fait penser à ça, comme la dernière fois, il avait beaucoup centré sur ça. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il a recyclé?
Un petit peu.
Un petit peu,
Un
d'accord.
petit peu, ouais, un petit peu.
Bah, il y a l'armée, en tout cas. Et il y a l'armée, et c'est vrai qu'il y a, oui. Je vois de quoi tu veux parler, Steve. On peut noter quand même la présence d'un magnifique poster, qui fait en fait une
Ah,
quadruple
façon hockey
page.
podium!
Qui fait quadruple page, donc il faut décoller, gentiment pour pas l'arracher, et donc le déplier en même temps qu'on lit le comics, pour avoir en fait les deux pages. Au lieu de faire deux doubles splash pages, il nous a fait deux quadruples splash pages.
Mais c'est comme
Et
ils
qui, ma
avaient
foi,
teasé,
c'est...
d'un côté il est tout petit et de l'autre il est tout gros.
Oui.
Oui, c'est ça,
Bah
oui,
c'est
tout à fait.
exactement ce qu'ils avaient teasé alors.
C'est ça, exactement. Et bah, elles sont réussies, hein.
Oui,
C'est
non, mais c'est
réussi.
très joli, mais est-ce que
C'est
ça
très joli.
justifie un comic à
Après,
5$? Je suis pas certain.
je
Ah
sais
bah
pas
c'est
si ça,
DC,
voilà.
hein. Parce que
La
le
couverture
problème,
3D c'est
c'est
1$, le
qu'ils nous
poster c'est
avaient dit.
1$.
Ils nous avaient clairement dit à l'époque où ils avaient commencé à teaser la série et teaser le fait qu'il y aurait un énorme poster, c'est que le poster était super important dans l'histoire, etc. Non, il n'est pas
Non,
super important dans l'histoire. C'est juste une page où on a mis des
Jimmy.
dialogues pour justifier qu'il y a de l'histoire dessus, quoi.
Oui, c'est Jimmy qui a voulu faire un truc. Voilà, il a dit au scénariste, attends, je vais faire un truc génial et tout. Et voilà,
Ah, c'est pour gagner des
voilà.
parts de marché
Il a dû mettre,
à la
il
fin
a
du
dû mettre
mois.
2 semaines à faire ce poster, je pense. Mais oui, voilà. Donc c'est rigolo, c'est sympa, mais c'est absolument pas important pour le récit. Et voilà, c'est plus un gadget. Ceci dit, les pages en question sont réussies.
Ah oui, non, mais c'est très joli, hein. Franchement, c'est superbe. Maintenant, est-ce que ça vaut le fait d'augmenter
Ah
à
non, pas du tout. Bah
4,99$?
non, ça, je
Il y
trouve
a un
ça
backup ou
génial.
pas dans...
Oui, il y a un
Oui,
backup de 2 pages.
Ah oui,
il y a
bah,
un
c'est pas un gros
backup,
backup, hein.
il y a un backup court,
Bah,
qui,
Perry White raconte une histoire avec des jumelles qui viennent de Nagasaki, elles aussi.
D'accord.
Et en
Bah,
parallèle,
c'est
on
en
voit
lien.
quelque chose d'autre, un
C'est
mec
en
qui est
lien
repêché,
avec,
ouais.
avec le récit principal, et
D'accord.
oui, on voit quelque chose aussi d'assez étonnant, ce qui me fait dire que le backup n'est pas qu'une histoire parallèle, anecdotique et sympathique. Ça, à mon avis, le backup va avoir une réelle incidence sur le récit.
Il nous développe dans le backup un autre morceau de l'histoire qui, à mon avis, se rejoindra que plus tard.
Voilà, tout à
D'accord.
fait.
Donc ça lui permet de mettre deux intrigues sans couper en plein milieu son histoire et pouvoir la faire dessiner par deux Guyenne, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'ai remarqué aussi que Jim Lee s'était dessiné.
Ah!
Ah bon?
Oui, parce qu'il y a
Ah, j'ai
Jim
pas
Lee
vu.
Olsen. Voilà. J'avais envie de la faire depuis tout à l'heure, il fallait que je la place. Je suis vraiment désolé. J'ai très honte.
Non, mais dans ces cas-là, faut pas s'excuser, faut continuer, faut enchaîner, c'est tout.
Donc non, ça reste une bonne histoire, c'est sympathique, franchement, ça fait du bien de lire du Superman, parce que ça reste du bon Superman. Peut-être un des numéros qui m'a le plus intéressé de ce que j'ai lu en Superman New 52 pour le moment. Même si j'ai pas tout lu, donc je vais pas trop m'avancer, mais de ce que j'ai lu en tout cas, c'était plus intéressant. Maintenant, c'est pas du méga méga Superman non plus, quoi. Reste à
Non.
voir si ça va tenir la route sur les 12 épisodes qui nous sont promis. Parce que c'est un petit peu ce qui me fait peur, c'est que ça démarre très fort et puis après, j'ai
Ouais, je
peur
sais
du creux
pas.
de la vague.
Voilà, la première moitié de l'épisode est un peu longuette. Je suis pas tout de suite rentré dedans, quoi. À part les deux premières pages qui sont
Bah,
un peu
jusqu'au
décalées.
poster, en fait, c'est un peu chiant, quoi.
Ouais, c'est ça, oui, tout à fait.
Voilà.
Exactement.
Après le poster, ça commence à décoller un peu, ce qui est un comble pour Superman.
Tu vas
Enfin
l'accrocher
bon.
dans ta chambre, Flo, le poster?
Non, absolument pas, non.
Vaut mieux le laisser intact, ça gagnera de la
Je vais
valeur.
plutôt, je vais m'acheter les pages originales.
Je suis pas si certain que Jim Lee les vende.
Ouais.
Je crois pas.
Enfin bon, finalement, ta note, Flo, pour
Bah
ce
oui, c'est un
Superman
bail, c'est un
Unchained.
très bon bail. Ouais, c'est un très bon bail. Moins un bail que j'aurais pu penser, mais c'est vraiment un bon bail.
Pareil pour moi, bail aussi. Finalement, moi, c'est un peu mieux que ce que je pensais. Mais ça reste pas la méga claque, en fait. Même si c'est vraiment bien foutu, hein, mais ça reste pas la méga claque. En tout cas, bon, voilà, c'est un bon moyen d'avoir un très bon comic de Superman la semaine où Man of Steel sort aux États-Unis. Et c'était pas gagné d'avance vu les séries qu'il y avait. Voilà, c'est un peu trollesque, mais c'est pourtant vrai. On va terminer notre partie d'essai avec le Green Lantern Corps numéro 21, écrit par Van Jensen et dessiné par Bernard Chang. Donc renouveau de Green Lantern Corps après le départ de l'ancienne équipe créative. Et on va découvrir de nouveaux membres du corps. Mais on va voir aussi le personnage central qui est bien sûr John Stewart, puisque Guy Gardner est parti rejoindre le casting de Red Lantern, ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. Ça commence tout simplement avec un John Stewart avec Fatality. Fatality qui lui a posé une question relative à leur couple, mais on ne comprend pas très bien ce que c'est jusqu'à quelques pages plus tard. Et la question fatidique, hein. Est-ce que tu m'aimes?
Ça, c'est bien une star saphir, ça. Ouais, je te jure.
Ouais, mais bon. Quelle sera la réponse de John Stewart? Ben ça, je vous laisse découvrir. En tout cas, ils arrivent sur une planète où ils avaient reçu un appel de détresse concernant un réacteur nucléaire qui aurait peut-être explosé, qui viendrait d'un espèce de bâtiment. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est comme type de bâtiment.
C'est une sorte d'usine nucléaire.
C'est une sorte de centrale.
Une centrale.
Bref, ils sont là pour essayer d'empêcher que ça explose encore plus et ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont là en train de piller ce qu'il reste de cette espèce de centrale. Et ces gens-là ne sont pas répertoriés par la bague. Ils ne sont pas reconnus du tout, pas identifiables. Et donc, ils vont essayer de les poursuivre. Donc, pendant ce temps, on va s'intéresser à ce qui se passe sur Oa. On a un Salak qui est complètement perturbé du fait que les gardiens l'aient trompé. Et il se trouve responsable, il veut quitter le Green Lantern Corps, tout simplement.
Et d'ailleurs, certaines lanternes le tiennent responsable.
Pauvre Salak.
Ouais, pauvre Salak, ouais. Mais bon, Soranik Natu va être là pour l'aider et essayer de se reprendre un petit peu en main.
Attends, tu viens de dire quoi? Que Sora a niqué Natu?
Ouais, aussi. Mais ça, c'était dans les pages cachées, en fait. C'est avec l'application Marvel AR, si tu...
Ah, d'accord.
Si tu scannes un comics DC, voilà ce qui se passe. J'encourage tous nos auditeurs à essayer, vous allez voir. Bref, un épisode qui est plutôt sympa. On voit des nouvelles recrues aussi, hein, comme je le disais. Ça reste juste un numéro introductif. On sent une nouvelle menace venir sur la fin. Enfin, une nouvelle menace, pas si nouvelle que ça d'ailleurs. Mmh. Et voilà, un bon épisode avec des dessins sympathiques, mais moins bons que ceux de Fernando Bazarin, par contre. Hein.
Ouais, c'est correct.
Ouais, c'est un autre style. Mais c'est solide. Hein. C'est solide et ça a quand même l'avantage d'avoir une, je trouve, un trait un peu horrible. Enfin, ça a son trait, quoi.
Ça sent le digital quand même, hein, tout ça.
Au niveau des couleurs, principalement, ouais.
Oui, c'est sûr. Bah, c'est vert. c'est très sympa. À préciser que c'est pas entièrement écrit par Van Jensen, c'est coploté par Venditti et Jensen et scripté par Van Jensen. Donc, Venditti, d'ailleurs, ça se sent à l'écriture. Ça se sent que Venditti, il maîtrise la série Green Lantern, Green Lantern Corps et que, voilà.
C'est carrément raccord avec le numéro précédent de Green Lantern.
Tout à fait, c'est parfaitement raccord, donc c'est assez
plaisant. Perso, moi je l'aurais lu dans l'autre sens, tu vois, j'aurais plutôt lu celui-ci d'abord et ensuite le Green Lantern tout court. Plutôt,
ouais. Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Bon, par contre, faut arrêter de faire des menaces où genre il va y avoir une planète qui va exploser et justement il y a John Stewart qui est là et qui n'arrive pas à sauver la planète. Faut qu'ils arrêtent un peu ça.
Attends, c'est toi qui l'as vu parce que même moi je me suis même pas dit ça, tu vois.
Bon, c'est vraiment le loser.
Il s'est encore plein quand même au départ de l'épisode. Il s'est encore plein qu'il avait fait péter la planète de Fatality.
Mais oui,
il reste vraiment bloqué là-dessus.
Tu sais, à chaque fois qu'il voit sa copine, lui, à chaque fois il commence en disant, oh, je suis désolé, j'ai pété ta planète et tout. Pff, elle doit en avoir marre, quoi.
Ouais, mais il doit paniquer souvent,
j'ai
franchement.
Une star saphir, j'ai trop d'amour en moi maintenant. Tu m'aimes.
Tu fais vachement bien la star saphir.
N'est-ce pas, hein. Il manque plus que je mette un petit outfit violet. Et...
Ah ouais, voilà, c'est parfait.
Je me sens bien.
Prochain cosplay en convention, star saphir.
Tu m'enverras les photos que tu as prises de ta répétition de costume, mais en privé.
Pas de souci.
Bon, qu'est-ce que vous avez pensé quand même de ce premier épisode, vous?
Bah, ouais, moi j'ai bien aimé. Je mettrais pas ça dans le haut du panier du comics. C'est vraiment divertissant. C'est plutôt cool. C'est assez raccord avec l'univers Green Lantern. Mais voilà, après, ça reste du classique. J'étais content de voir apparaître ces méchants classiques de l'univers DC. Voilà, mais plutôt cool, je dirais un check it plus.
Flo.
J'ai trouvé ça plaisant à lire, raccord avec la série Green Lantern, cohérent, bien écrit, bien dessiné. J'ai pas vu de gros défauts, quoi. Ça lance une bonne menace, enfin que je pense qu'il sera plutôt bonne. Non, c'est bon. Après, j'ai jamais eu trop d'affection pour John Stewart, donc je sais pas où est-ce qu'il va l'emmener, mais ceci dit, l'histoire faut le coup, quoi. C'est un début solide pour moi.
Donc.
Bah donc un petit bail, un bon petit bail.
Ouais. Moi, je vais faire un checklist plus parce que c'est vrai que c'est très sympa. J'attends d'en voir plus en fait. Est-ce que je pourrais conseiller pour quelqu'un qui n'a jamais lu du Green Lantern de prendre ça? Non. Franchement, non. Je pense que c'est un peu trop compliqué. Et bon, même si c'est cool que ça se base sur ce qui s'est passé avant, c'est quand même censé être aussi un point d'entrée, puisque nouvelle équipe créative. Et je suis pas certain que ce soit un très bon point d'entrée en revanche. C'est un peu, il y a un peu trop de personnages pour que les gens puissent démarrer la série, enfin l'univers Green Lantern avec ça. En revanche, c'est quand même très sympa. J'ai envie d'aller voir la suite, donc check it plus. Voilà. Donc c'est tout pour DC, on va maintenant passer à la partie indé où Flo, donc le seul qui a lu du comics indé cette semaine, va nous parler de ce qu'il a lu. On commence avec du American Vampire, un one-shot.
Oui, tout à fait, un one-shot pour suite au long hiatus depuis le début de l'année d'American Vampire. On nous en resserre un petit coup pour nous faire patienter. Donc ça s'appelle American Vampire, The Long Road to Hell. C'est un one-shot, ça coûte $7, donc c'est quand même pas donné, mais il y a beaucoup de pages. C'est co-écrit par Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. C'est scripté et dessiné par Raphaël Albuquerque. Et ça se passe en 1959, donc à peu près à l'époque du troisième arc. Oui, c'est ça, le troisième d'American Vampire, où qui mettait en scène Travis Kidd, ce tueur de vampires qui les finissait avec ses mâchoires en bois.
Arc qui sort d'ailleurs en français ce mois-ci. Hein.
Tout à fait, exactement, inédit. Et on va retrouver un couple un petit peu sans le sou qui veut se marier et qui fait des petits larcins comme ça, par-ci par-là. Et qui va tomber dans un guet-apens et qui va se faire transformer en vampire par un clan de vampires dont le chef recrute des mignons, et donc il veut que ce couple devienne ses mignons, sauf qu'ils vont réussir à s'échapper et ils vont croiser la route de Travis Kidd. Ils vont croiser la route d'abord d'un enfant qui semble avoir d'étranges pouvoirs, ou pas. Je sais pas s'ils avaient des pouvoirs ou juste une intuition, mais qui semble voir si les gens sont plutôt bons ou plutôt mauvais. Et ça va bien leur servir. Et voilà, j'en dis pas beaucoup plus, si ce n'est qu'ils vont ce couple de vampires, de nouveaux vampires, n'a pas envie d'être vampire et vit très mal ce truc-là, et va essayer de trouver un moyen de se soigner, et voilà. Donc c'est très bien écrit, je trouve, pour un script de Raphaël Albuquerque. C'est vraiment bien écrit, l'histoire est sympathique, l'apparition de Travis Kidd est cool, parce que j'aime beaucoup ce personnage, il a vraiment un charisme et une allure vraiment cool. Après voilà, ça ne fait pas avancer la mythologie de d'American Vampire, mais c'est vraiment cool à lire. C'est un petit peu cher, mais c'est cool. Et surtout, si on aime bien les dessins de Raphaël Albuquerque, là, c'est très cool. À part quelques pages un peu en dessous, c'est très cool.
Donc pour moi, c'est Raphaël Albuquerque. Moi, ça me fait tout le temps penser à Albuquerque.
Albuquerque. D'accord. Raphaël Albuquerque. Donc, c'est un bon petit check-in pour moi. On passe à Manhattan Projects numéro 12, écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Nick Pitara et colorisé par Jordi Belair, où on apprenait à la fin du précédent numéro que Enrico Fermi était en fait un alien. voilà, c'est très chelou. C'est en fait un alien qui est un drone qui a pris la place du vrai Enrico Fermi quand il était enfant. C'est un alien qui est chargé de d'observer les humains et de s'intégrer dans leurs différents projets un peu foufou d'explorer l'espace. Et là visiblement la personne qui dicte ses ordres à Fermi lui a dit bon bah écoute ils sont allés trop loin les humains et donc ils ont trop d'ambition, ils sont trop fous et il faut tous les buter. Enfin, il faut buter l'équipe du Manhattan Projects qui sont, je le rappelle, toujours sur la Lune depuis la fin de l'épisode précédent. Et voilà, c'est très drôle, c'est du Hickman totalement en roue libre, mais qui reste très drôle. avec toujours les mêmes concepts, sauf que là, on nous en rajoute encore un. On apprend que Fermi est un extraterrestre. Ok, d'accord. c'est très cool. C'est très très bien dessiné par Nick Pitara, toujours. C'est vraiment super. Voilà, c'est toujours un bonheur à lire. Je comprends beaucoup plus, malgré le côté très déjanté de l'histoire, je comprends beaucoup plus cette histoire que East of West, par exemple. Où là, je suis très hermétique, ou le premier épisode de New Avengers, par exemple. Donc ça, c'est du Hickman que j'aime lire. Et ça fait plaisir chaque, enfin pas chaque mois parce que ça sort un petit peu chaotiquement, mais c'est quand même très cool. Donc voilà, c'est un bon bail comme à peu près tous les mois pour Manhattan Project. Et je finis par The Crow, le retour de The Crow par James Cobar. Ça s'appelle The Crow Curare et c'est dessiné par un Français dont le nom Antoine Daudet.
Ah bon, je savais pas que c'était un Français qui dessinait, tu vois.
C'est un Français, et d'ailleurs ça se voit dans le dessin, c'est quand même très très, c'est très très, c'est pas du tout, c'est très européen, c'est pas du tout du comics, hein, pour le coup. On suit un ex-commissaire de police, qui en fait, depuis 10 ans, est resté bloqué sur le meurtre le meurtre atroce et très violent d'une petite fille de 7-8 ans. Et qui est resté bloqué sur ce truc, qui ne trouve pas le tueur et qui va perdre sa femme, ils vont divorcer. Voilà, maintenant c'est une loque humaine le mec, mais il est toujours bloqué là-dessus et on comprend pas trop où est le rapport avec The Crow jusqu'à un certain moment où on voit un corbeau. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les dessins, c'est vraiment du franco-belge, comme on dit. J'ai pas eu l'impression de lire un comics, mais c'est vraiment très cool à lire. C'est très noir, très sombre, assez violent. C'est vraiment pour public averti. Mais c'est vraiment bien de retrouver James Hobart qui fait du comics. Donc voilà, c'est une mini-série, il me semble. Mais par contre, je ne sais pas. Mini en trois, voilà. Et ça sort chez IDW.
Ceux qui ont la licence de The Crow, c'est leur troisième mini-série sur l'univers de The Crow, depuis qu'ils ont récupéré la licence.
Voilà, mais elles étaient écrites par James Hobart aussi ?
Il y en avait une autre qui était écrite par James Hobart, et la dernière, je ne sais plus, par contre.
D'accord, parce que... D'accord. Donc voilà, moi l'univers de The Crow, je connais pas trop à part un peu le film et la série télé, mais j'ai pas lu l'original.
Oh non, mais la série télé, on l'oublie quoi.
Mais oui, je sais qu'on l'oublie, mais bon, écoute, on a les références qu'on peut. Hein.
Mais là, c'est vraiment très cool. Tu oublies quoi.
C'est vraiment très cool. C'est très sombre comme je le dis, mais c'est un peu plombant, mais c'est très bien écrit.
Juste un peu. Ça reste du The Crow, hein. C'est pas toujours
oui, oui.
Très gay.
Ah
quoi.
Oui, ah oui, non, c'est pas gay du tout. C'est d'ailleurs les couleurs, c'est que des tons de sépia. Donc c'est pas gay du tout. Ceci dit, c'est une très bonne lecture.
J'ai vérifié entre-temps la première mini-série publiée chez IDW qui s'appelait The Crow Death and Rebirth avait été écrite par John Shirley, tandis que la deuxième Skinning the Wolves avait été écrite par James Hobart. Voilà.
D'accord.
Donc, ce The Crow, un check-it ou un bail ?
C'est un bail parce que c'est ma première expérience là-dedans et j'ai trouvé ça très cool et très sombre. Et voilà, c'est vraiment solide, quoi. Donc, allez-y si vous aimez les trucs sombres. Attention, c'est pas pour les enfants, par contre.
Oui, il vaut mieux le préciser. Oui.
C'est pour les gothiques.
Allez, on passe maintenant à Marvel et on commence avec toi, Bruno, qui va nous parler d'une de tes séries
favorites. J'adore cette série.
Avenging Spider-Man numéro 22.
Ouais, le dernier numéro, donc toujours Christopher Yost au scénario, on a David Lopez au dessin pour ce numéro, avec toujours une sublime couverture de Paolo Rivera. Donc dans ce numéro, on voit s'opposer en fait Superior Spider-Man à Punisher. Pourquoi ? En fait, il y a Superior Spider-Man qui essaye d'intervenir parce qu'il y a un cambriolage. Il arrive sur place et il se retrouve face à face avec Mysterio. Enfin, Mysterio, non, c'est Mysterion. Parce que oui, si vous vous rappelez, Mysterio, il est un petit peu bloqué ailleurs. Donc, qui est ce personnage ? vous le verrez dans le comics. Donc Superior Spider-Man se bat contre lui et tout d'un coup il y a une balle qui lui frôle la tête et c'est le Punisher qui est derrière et qui lui veut y aller de façon expéditive et détruire Mysterio. Donc il s'ensuit en fait un petit combat entre Superior et Punisher. Et là, c'était vraiment très bien écrit et assez cool, puisque Punisher réagit par rapport au fait que Spider-Man est devenu beaucoup plus violent, et en particulier, il lui parle du fait que bah, justement, il a déjà tué un de ses ennemis, là, ce Spider-Man, qu'il était au courant, et qu'il comprenait, et que du coup, il le respectait de plus en plus. Donc ça les empêche pas de se battre, mais c'était quand même assez bien vu. Et beaucoup de choses en rapport avec la continuité, en rapport avec Octopus, sa relation avec l'ancien Mysterio. Et voilà, on apprend un peu qui est derrière ce fameux Mysterion. Et on en apprend aussi également sur le plan final de Superior Spider-Man, qui consiste justement à capturer un peu tous ses anciens ennemis.
Donc, de dominer le monde,
exactement. Franchement, c'est toujours aussi cool. Les dessins un petit peu moins bons que les précédents numéros, mais ça reste quand même très très agréable. Et bah, vivement la suite, hein, qui sera dans Superior Spider-Man Team-Up, toujours avec Christopher Yost.
Ça démarre le mois prochain.
Voilà, un bail pour moi.
On continue avec le troisième épisode de Guardians of the Galaxy. Troisième épisode seulement, j'ai envie de dire.
Ouais.
Puisque c'est bien le problème de cette série, c'est qu'elle est très bien. Et on était très content. Enfin, moi, je suis toujours très content quand j'ai une série mensuelle chez Marvel. C'est assez rare pour être signalé. Mais le problème, c'est que comparé aux autres séries, ça n'avance pas quand on a des séries qui sortent deux à trois fois par mois. Et se dire qu'on n'est que au troisième de Guardians of the Galaxy, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans finalement, même si c'était pourtant il y a qu'un mois. J'ai eu un petit peu de mal, il a fallu que je retourne voir la fin du 2 pour me rappeler exactement de ce qui s'était passé. Alors, c'est toujours écrit par Brian Michael Bendis, dessiné par Steve McNiven et Sarah Pichelli, qui prend déjà ses marques, hein, bien sûr, puisque c'est elle qui va le remplacer dès le prochain numéro. À l'ancrage, on retrouve John Dell, Steve McNiven et Sarah Pichelli. Donc, la situation est simple. Les Guardians of the Galaxy ont débarqué sur Terre en apprenant que la Terre avait été mise un petit peu en quarantaine de par toutes les races aliens qui ont décidé de faire un espèce de plan, de dire non, plus jamais, personne ne va sur la Terre, c'est terminé. Les Badoons en ont profité pour essayer de faire une petite invasion, et les Guardians ont dû braver cette loi qui interdisait de retourner sur Terre pour aller défendre. Pas de chance, ils sont fait griller, et le roi de Spartax, qui est donc le père de Star-Lord, hein, rappelons-le, eh bien, est venu les capturer. Et ils se retrouvent en prison. Tous, sauf un, le monomaniaque, qui est en train de repousser tranquillement, et qui va venir sauver ses compagnons. Pourquoi je l'appelle monomaniaque? Puisqu'on n'entend que I am Groot. Hein.
c'est vrai. Je ne sais pas comment il parlait dans les précédentes séries où il apparaissait.
Pareil. Mais en fait, c'était ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu les Dan Abnett et Andy Lanning, et surtout les mini-séries Rocket Raccoon et Groot, justement, on apprenait que Groot, en fait, ne dit pas que I am Groot, c'est juste qu'il parle un langage, et la résonance fait qu'on a l'impression qu'il dit toujours I am Groot, mais en réalité, il raconte plein de choses. Mais avec I am Groot seulement, des fois, ce sont des pages entières de texte, quoi.
D'accord.
Et c'est juste la résonance. Bon, voilà, c'était le petit truc qu'il fallait savoir. Donc, mais bon, ça, c'est pas réexpliqué. C'est vrai que ce serait bien que ce soit réexpliqué pour les nouveaux lecteurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de nouveaux lecteurs de cette série, et qui n'ont pas suivi le run d'Abnett et Lanning, et c'est bien dommage, parce que c'était vraiment très bon.
C'est là où serait utile le Marvel AR pour avoir le texte.
Peut-être que ça a été utilisé. Je ne sais pas.
Mais ce serait cool en tout cas.
Je l'ai pas testé moi cette semaine. J'ai pas eu le temps. Donc on va avoir un petit combat des Guardians of the Galaxy qui vont s'échapper et qui vont décider de piquer le vaisseau sur lequel ils étaient retenus, le vaisseau Spartan sur lequel ils étaient retenus, dans une scène totalement folle avec des masses de morts. Hein. C'est quand même une équipe qui qui ne respecte pas trop la vie extraterrestre, puisqu'il y a un paquet de morts, et notamment les dialogues de Rocket Raccoon sont monstrueux là-dessus. Bref, un bon épisode, et surtout un Star-Lord qui va envoyer un message à tous les Spartans, puisqu'il a compris que son père était en train de faire un coup de pute, on peut le dire. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode.
Pas lui.
J'ai trouvé ça très très fun à lire. C'est du Bendis qui s'éclate. On sent qu'il s'éclate avec les personnages. Il a ses jouets, et surtout que là il y a de la baston et tout, c'est très drôle. Rocket Raccoon est drôle, même Tony Stark arrive à être drôle alors que j'aime pas trop ce personnage. Groot est drôle malgré son code de dialogue. Et en même temps, c'est vrai que l'intrigue, elle avance pas des masses, mais quand même.
Le problème, c'est que nous ne sommes qu'au troisième épisode, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, on peut pas se plaindre non plus. Non, c'est vachement plaisant de bout en bout à lire et à regarder. Voilà, c'est un vrai plaisir. Cette série, tu vas dire, pour moi, c'est un plaisir depuis le début, et celui-ci, c'est sans doute mon préféré de l'épisode.
Bah, autant dans le premier, il se passait pas grand-chose. Dans le deuxième, c'était une immense baston pour repousser les badounes, qui était certes très marrante, mais ça ne restait que de la baston, et donc avec un petit passage sur le conclave des extraterrestres, finalement. Mais là, au moins, t'as l'impression que l'histoire avance quand même. T'as l'impression ils savent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui marche pas. On apprend aussi le pourquoi des badounes ont attaqué la Terre. Finalement, sont-ils des traîtres ou pas? Bah ça, la réponse est dans le comic, donc on va pas vous la donner. Ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt pas mal trouvé finalement. Et on voit que même déjà dans cette espèce de petite équipe secrète d'extraterrestres, ces Illuminati extraterrestres, je vais les appeler comme ça, il y a déjà des dissensions qui parviennent à se faire. Il n'aura pas fallu attendre 15 épisodes pour les voir, quoi.
Ah bah oui, c'est sûr, vu la team de vainqueurs qu'il y a, c'est quand même pas des enfants de cœur, les mecs, hein. Tu m'étonnes qu'ils vont se taper dessus un moment. Non, c'est ça qui est bien, ouais, c'est que l'histoire avance, et en plus, il y a de l'action, et en plus, c'est bien écrit et drôle, donc il y a tout d'un vrai bon Bendis, quoi.
Ouais. Non, c'est franchement, c'est une bonne série, et c'est vraiment regrettable que celle-ci ne sorte pas plusieurs fois par mois, contrairement à d'autres, justement.
Si c'était le cas, on n'aurait pas du McNiven et du Piketty, je pense.
C'est vrai aussi. Non, mais c'est justement le problème.
Ils n'ont pas été obligés justement de se caler par rapport à Age of Ultron aussi, peut-être.
Ah, peut-être ouais, aussi, oui. Aussi, et puisqu'on sait qu'Angela va arriver, on nous le tease d'ailleurs à la fin de cet épisode. Mais c'est vrai que c'est un peu le souci principal de cette série, c'est qu'autant il y en a d'autres, ça avance tellement vite, comme All New X-Men, et il se passe pas grand-chose, et que là où il se passe des trucs, on a envie de savoir la suite, on ne l'a qu'une fois par mois. C'est frustrant, c'est très frustrant. Mais ça rend la série aussi très bonne, et fait qu'on l'attend impatiemment chaque semaine. Enfin, plutôt chaque mois. Bref, donc pour moi, un gros bail. Pour toi aussi, Flo, hein, j'imagine.
Oui, gros bail. Ouais.
On va passer à la suite, c'est Wolverine and the X-Men numéro 31, et puis c'est toi, Flo, qui va nous en parler.
Oui, c'est le début de l'arc Hellfire Saga, un arc en 5, très ambitieux, qui va se voir s'opposer, vous en doutez bien, le Hellfire Club et sa Hellfire Academy, nouvellement ouverte, contre la Jean Grey School. C'est donc scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Nick Bradshaw, qui revient enfin sur cette série. On suit en gros Quentin Quire, Kid Omega, qui s'infiltre en fait dans la Hellfire Academy.
Est-ce qu'il a bien mangé, Quentin Quire? Voilà. Je suis vraiment désolé.
Il entre dans la Hellfire Academy accompagné d'un autre nouvel élève qui s'appelle Snot. Que je connaissais pas. Je sais pas s'il est déjà apparu. Snot, qui est en fait un mutant qui a un gros nez et qui a la capacité de t'inonder de morve.
Ah, c'est magnifique.
C'est vraiment dégueulasse. Et
pouvoir de merde.
Et donc Quentin Quire en gros va rejoindre Heidi et Brew. Heidi qui avait rejoint le Hellfire Club un peu plus tôt également pour savoir qui avait tiré sur Brew. Voilà, donc deux infiltrés dans la Hellfire Academy. Et ils vont suivre les premiers cours de cette école un petit peu particulière, avec des profs un peu particuliers, puisqu'on retrouve pêle-mêle Mystique, Sabertooth, Starblood. Starblood pour un magnifique cours de dissection d'extraterrestres. Sauron, Dog, il y a le Philistin qui est... et qui est un petit peu le pion.
C'est quand même génial, cette école. Moi, franchement, j'ai vraiment envie d'y aller, ne serait-ce que pour ces cours qui ont l'air monstrueux.
C'est vraiment totalement déjanté, quoi.
Par contre, je n'oserais pas faire une connerie en cours, j'aurais trop peur de la sanction, tu vois.
Non, mais c'est très très drôle. Le programme des cours est vraiment à mourir de rire, quoi. Ça fait un peu une page sur chaque cours, et à la fin, il est minuit, et ils vont toujours pas se coucher, et ils vont dans une sorte de danger room avec Wendigo et qui doivent se battre entre eux. Enfin, c'est de la folie, quoi.
Mais Aaron avait déjà fait le coup au début de la série sur les cours assez bizarres déjà qu'il y avait dans la Jean Grey Academy, mais là apparemment il va pousser le bouchon encore plus loin en disant une école de méchants.
C'est la Academy, hein, donc c'est quand même.
J'ai pas lu, mais il serait génial que ça se termine par les concours qu'il y a entre écoles, c'est aux États-Unis, les concours d'orthographe, les trucs comme ça. Tu vois les.
ça serait probablement très drôle. Mais non, donc c'est excellent et en même temps, bah on voit que l'histoire avance et on va voir si ça va bien ou mal tourner pour les deux infiltrés dans la Hellfire Academy. Quoi qu'il en soit, c'est très beau parce que Nick Bradshaw, j'aime beaucoup. On a l'impression de retrouver Jason Aaron, quoi, qui s'éclate. Il y a du gag, il y a des répliques cinglantes. Il s'éclate, quoi, à faire ça. Et ça faisait de nombreux numéros que je l'avais pas vu écrire aussi bien cette série. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Très très cool. Un petit exemple de cours de petits special events, parce qu'à la fin il y a une page avec le programme de la Hellfire Academy. Le dicton de la Hellfire Academy d'ailleurs, c'est fais ce que tu voudras en français. C'est très drôle. Par exemple, événement spécial, l'élection de Miss Hellfire Beauty avec Wilhelma Kensington, la White Queen. Not no other entries allowed. C'est-à-dire que il y a que elle qui a le droit d'y participer. Donc une lecture Driving on the Highway to Hell, a guest lecture by the Highwayman, des choses totalement déjantées comme ça. Donc voilà, c'est vraiment génial. C'est génial. C'est même mon coup de cœur de la semaine.
OK, donc gros gros bail, hein.
Gros bail, c'est vraiment un plaisir de retrouver Jason Aaron dans cette forme, quoi. Voilà.
Ben espérons que ce soit pas juste temporaire.
Ben non, en fait, juste une note, la Hellfire Saga, on sent que c'est un truc qu'il avait envie d'écrire depuis longtemps et que c'est un truc important. Voilà, et c'est un arc vraiment majeur de la série qui va, en plus, on voit un petit peu dans l'épisode, qui va avoir, à mon avis, un une grosse importance pour l'avenir de la Geneva School.
Ok.
Voilà.
On va terminer notre section Marvel avec la sortie du 6e épisode de Savage Wolverine, Bruno.
Ouais, très très grosse sortie, puisque c'était un titre très attendu. Au scénario, on a Zeb Wells, mais surtout au dessin, on a Joe Madureira, qui fait son retour chez Marvel, pour un arc, je crois, en 5 numéros.
Donc, en 3.
En 3
4. 4, puisque à partir du 9, c'est Jock.
D'accord,
c'est ça.
Ce qu'on
avait annoncé dans le Weekly News de cette semaine.
Bon, en 4. Donc du Joe Madureira, alors déjà petite note.
Non, 3 en fait, 6, 7, 8.
Il y en a pas beaucoup alors, je suis déçu. Bon, donc qu'est-ce qu'on voit dès le début? On a une petite note de l'éditeur qui nous explique que cette histoire se passe il y a longtemps, genre avant octobre, et que c'est pas la peine de se prendre la tête avec la continuité, hein. Bon, parce que bon, là ça se passe avant. Donc,
avant octobre, c'est facile à comprendre.
Voilà. C'est facile à comprendre puisque il y a quand même un personnage qu'on retrouve dans le comics qui est Spider-Man, qui n'est pas du tout le supérieur Spider-Man qu'on a actuellement, qui est notre bon vieux Peter. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent lire du Peter Parker, lisez Savage Wolverine. Cet arc, en fait, ça a l'air d'être une suite directe de l'arc Ennemi d'État, dans lequel Wolverine avait été reprogrammé par la main et où il avait fait un peu équipe avec Elektra, puisque à nouveau on a la main qui revient en jeu, on a Elektra qui arrive et en fait il s'agit de savoir qui doit mériter de diriger la main. Actuellement c'est le Kingpin qui est censé être le représentant de la main, mais en fait sa direction est remise en cause par un groupe, une organisation un petit peu secrète de la main qui le teste, et pour le tester en fait ils ont engagé un assassin qu'ils ont ressuscité et qui sera censé s'attaquer au Kingpin. En parallèle, on a aussi une enquête d'Electra qui a l'air d'avoir un lien avec le Kingpin, qui aussi demande de l'aide de Wolverine. Donc c'est assez péchu, un Wolverine beaucoup.
J'ai
beaucoup
l'impression
plus sauvage.
Que t'as peut-être pas fait tous les liens finalement dans cet
peut-être.
Épisode.
Peut-être alors.
Puisque le personnage qui celui qui s'appelle l'arbitre, qui vient annoncer à Kingpin que sa direction est remise en cause de par le fait qu'il utilise les ninjas de la main juste pour faire des petits crimes et garder la main mise sans jeu de mots sur le crime de New York. Mais justement a engagé quelqu'un pour lui faire un test. Et c'est justement ce personnage que cherchait Elektra. Tout est lié en fait. Déjà,
oui,
dès
si,
le départ,
si, ça j'avais compris, mais je voulais laisser un peu le mystère. Mais oui, tout à fait. Donc voilà, après Elektra a besoin de Wolverine et il va y avoir sans doute un sacré team-up entre les deux pour régler le problème. Donc savoir, on sait pas trop, il y a des fausses pistes un petit peu et à la fin il y a une petite surprise. Du Joe Madureira que j'ai trouvé très en forme, c'est plutôt beau.
Oui.
J'ai vraiment kiffé le côté sauvage de Wolverine qui est vraiment bien représenté. Pas mal d'humour, si vous voulez lire du Peter Parker, c'est dans Savage Wolverine. Et je suis juste déçu maintenant d'apprendre que ce ne sera qu'en 3 numéros. J'aurais aimé que ce soit en 5 au moins.
Oui, enfin en même temps, il y a Jock qui vient derrière, donc
voilà, Jock ça sera bien aussi.
Au change non plus quoi.
Ouais, ça sera bien aussi Jock. Mais voilà.
Effectivement, c'est une histoire qui ne s'embarrasse pas de la continuité puisque ce personnage-là, on le voit ailleurs actuellement. Et ils ont bien fait préciser au départ qu'il faut pas s'embarrasser de la continuité.
C'est clairement un script qui a été fait il y a longtemps quoi.
Je pense que les derniers événements, je vais pas révéler pour pas laisser de pistes du tout, mais les derniers événements où l'on voit ce fameux personnage mystérieux dont on parle depuis tout à l'heure, où il apparaît dans une autre série, justement, ne sont vraiment pas pris en compte. J'ai envie de dire, il manque quand même un personnage peut-être pour moi dans cette histoire, mais j'espère qu'on le verra passer.
Ah.
Parce que sous les traits de Madureira, j'aurais bien envie de le voir. Je pense que tu vois à qui je fais
allusion. Oui, je vois très bien. Mais j'aime bien son Elektra quand même. Déjà, je trouve.
Oui. Mais moi qui suis pourtant pas un grand fan du style de Joe Mad, je dois avouer que là, il m'a vraiment fait plaisir. C'est vraiment du très bon Joe Mad, quoi.
Ouais.
Il y a toujours des réminiscences très manga dans son style, mais moins que d'habitude, je trouve.
Ouais. Et il y avait des scènes vraiment cool, quoi. J'ai bien aimé la scène de colère du Kingpin. qui était plutôt cool et c'est du comics cool.
J'ai bien aimé la scène des shurikens moi.
Ah oui, ça c'était pas mal aussi. C'est vraiment du grand spectacle, c'est action, humour. Pour moi c'est un bon gros bail quoi.
Et c'est du bon Zeb Wells parce
aussi.
Que Zeb Wells est capable du pire comme du meilleur et là je suis assez content, c'est vraiment du bon. Pour moi je pense que ça fait un petit peu suite aussi aux événements qu'on avait pu lire dans la mini-série Astonishing Spider-Man ou Wolverine qui était écrite justement par Zeb Wells aussi.
Ah d'accord, moi je l'ai pas lu celle-là.
Y a pas forcément de référence, mais à mon avis c'est quand même une espèce de suite qui ne dit pas son nom, encore un
d'accord.
tandem entre Wolverine et Spider-Man. Voilà. Donc un bail pour toi Bruno ?
Ouais un bail.
Ouais, pour moi aussi, hein, bail. Bonne petite reprise, une série anthologique qui, si elle garde ce niveau de qualité-là, pourrait être très sympathique.
Carrément.
À voir qui viendra ensuite après Jock. En tout cas, si nous font plaisir comme ça, c'est gagné. Je pense que moi qui donnais pas trop cher de cette série au départ, ça risque d'être un must-buy finalement.
Ouais.
Allez, on va terminer comme chaque semaine avec les TPB de la semaine, justement, ceux qui viennent de sortir. Chez Dark Horse, on commence avec du Creepy Archives volume 16 qui continue donc de sortir, qui reprennent les épisodes, les magazines numéros 73 à 77, donc plein de petites histoires à l'intérieur. Vous retrouvez tout un tas de grands noms, du Alex Todd par exemple, du Neil Adams, du Luis Bermero. Luis, attention.
Oui.
il y a du Richard Corben, enfin il y a vraiment plein de monde. Ça vaut $49.99, c'est cher, mais ça reste un objet de collection, c'est du hardcover, et ce sont des choses qui sont très très dures à trouver aujourd'hui. Chez DC maintenant, nous avons du Catwoman qui sort, mais attention, pas le nouveau Catwoman, l'ancien, écrit par Ed Brubaker, avec les épisodes 10 à 24 et le Catwoman Secret Files numéro 1, ce qui me fait penser qu'on risque d'en avoir bientôt d'autres débarquer en VF.
Ouais. Ouais, mais c'est un bon rapport qualité-prix là, il y a quand même beaucoup à lire.
Ouais, il y a donc de l'épisode 10 à 24 plus le Catwoman Secret Files, tout ça pour $25. Bon, c'est du soft cover, mais ça fait un gros rapport.
Ça représente à peu près 3 TP urban quoi, donc voilà.
Continuons avec Resurrection Man numéro 2, la suite et fin de cette série, puisque cette série s'est arrêtée à l'épisode 0.
Ouais.
Tout simplement. On a donc les épisodes 8 à 12 plus le 0, ainsi que le Suicide Squad numéro 9, dans lequel notre personnage Resurrection Man apparaissait. Ça vaut $15.
C'est cool.
Que nous n'avons pas en français. Donc,
ouais, cool.
Profitez-en.
J'ai bien aimé, moi.
Ah, quelque chose qui va faire plaisir, je crois, à Flo, puisqu'il attendait que ça ressorte. C'est le nouveau Preacher. Enfin, le nouveau. une nouvelle édition en tout cas de Preacher en TPB. Pour $20, vous avez les épisodes 1 à 12. Plus oui, bon, bah, quelques petites pin-up.
Bah, les TP à la base, il y a 9 TP. Et là, en gros, ça rassemble 2 TP par, ça rassemblera 2 TP par volume. Donc, c'est cher. Du bon gros, voilà, c'est du bon gros, plein, avec plein de pages, d'un gros chef-d'œuvre, puisque Preacher, c'est quand même une des meilleures séries, comics, un des nombreux chefs-d'œuvre sortis chez Vertigo. Donc, Garth Ennis et Steve Dillon, quoi. Voilà. C'est un must-buy. Si vous connaissez pas Preacher, foncez dessus, quoi.
Même si tu n'es pas fan de Steve Dillon, hein, Bruno, tu te dois de lire Preacher.
Ouais, faut que je le lise, parce que je l'ai pas lu, effectivement.
C'est exceptionnel, ça.
Une série avec un prêtre qui récupère la voix de Dieu. Voix de Dieu qui permet de faire tout ce qu'il veut aux gens quand il l'utilise.
C'est cool.
Un pouvoir comme ça écrit par Garth Ennis.
Moi, je me rappellerai toujours de cette première fois où il l'utilise, où il dit « Go fuck yourself ».
Oui.
J'ose même pas imaginer.
Ah bah voilà, faudra lire la suite. Et dans ses pérégrinations, il est accompagné de Cassidy, qui est un vampire, et de Tulip, son ancienne petite amie. Moitié prostituée.
Un road trip
d'accord,
énorme.
D'accord, c'est un sacré équipe, ouais. Ok, ouais. Bah ouais, faut absolument que je le lise.
Qui commence comme une blague, comme un sketch, mais qui continue et qui finit comme un buddy movie, mais super poignant, avec des personnages vraiment très, très, très riches, quoi.
Et surtout un gros regard sur la société américaine au travers de ce gros road trip.
Ouais.
Je suis resté marqué, moi, par tout l'arc qui se passe dans le marais.
Ah ouais.
Avec ces espèces avec de consanguins, là. Ah, sale race.
Ah oui, avec sa grand-mère. Putain.
Quelle horreur. Des personnages qui sont ignobles, hein, tout au long de la série.
Ah, vous donnez envie, les gars.
C'est vraiment une série à lire, hein. En plus, elle n'est pas extrêmement longue. Il y a 66 épisodes.
Voilà. Bah, ce sera l'occasion, là. Je vais peut-être tester cette nouvelle édition.
On va continuer justement chez DC et avec toujours du vieux, puisqu'on a la ressortie, cette fois-ci en TP, donc couverture souple de Stormwatch, mais attention, pas Stormwatch version New 52, Stormwatch version Warren Ellis, à l'époque où c'était encore chez Wildstorm. Dans ce premier TP, pour $20, on retrouve les épisodes 37 à 47. Warren Ellis qui reprend cette équipe qui était un petit peu en perdition en termes de vente, on lui a laissé carte blanche et il a modifié l'ensemble. Et ça donne quelque chose de très très bon, puisqu'on a... des choses qui vont rester, j'y viens dans quelques secondes. Donc c'est du Warren Ellis dessiné par Tom Rennie et un peu de Jim Lee. Et justement, pour accompagner ce TPB qui ressort en version souple, on a la version hardcover, le numéro 2, toujours dans l'ancienne continuité finalement, hein, pas la version New 52, avec cette fois-ci les épisodes 48 et 49 qui signaient la fin de la série, mais surtout le début de Authority. Par Brian Hitch, enfin Warren Ellis et Brian Hitch au dessin, Authority qui est donc la suite de Stormwatch, et pareil, un chef-d'œuvre absolu à lire, puisque c'est quelque chose qui a énormément influencé le comics et la façon de faire du comics depuis que c'est sorti. Donc là, c'est du hardcover, ça vaut $30. Si vous n'avez jamais lu Authority, Flo ou Bruno, je vous encourage très très fortement à le lire.
Ok.
Et vous verrez que justement beaucoup de choses ont été inspirées par Authority si on arrive à le remettre dans le contexte. Chez IDW, quelque chose qui fera plaisir à Bunny, puisque c'est le Teenage Mutant Ninja Turtles Secret History of the Foot Clan TPB.
Voilà.
Voilà, tout ça.
Les secrets du pied.
Oui, l'histoire secrète, l'origine du fameux clan des foot, comme on le traduit en français, hein, puisqu'on n'a pas voulu le traduire par clan des pieds. Ça faisait vraiment trop ridicule. Ça vaut $18, voilà, si vous voulez connaître l'histoire derrière ce fameux gang de ninjas que les tortues terrassées à chaque épisode.
Cool.
Passons chez Marvel maintenant. Un produit qui va te plaire fortement, Bruno, puisque c'est un roman.
Oh.
Écrit par Peter David, c'est la version romanesque, on va dire, enfin en tout cas la version prose de l'arc de Joss Whedon sur Astonishing X-Men. Ça s'appelle Astonishing X-Men Gifted. Voilà, ça sort, ça vaut $8 si vous avez envie de relire l'arc de Joss Whedon, mais cette fois-ci écrit par Peter David, qui, je le rappelle, est un très très bon romancier. Alors, chose qu'on a tendance à oublier, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de comics.
Ouais, mais de là à lui faire ça...
En même temps, X-Factor va s'arrêter, alors tu sais...
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Non, mais voilà, très très bon romancier que Peter David. Toujours chez Marvel, Marvel continue à nous ressortir des Marvel noirs en édition collected avec cette fois-ci Daredevil noir, Luke Cage noir et Iron Man noir. Ces trois mini-séries en quatre épisodes chacune sont au prix de $35. Bon, moi j'ai pas forcément un grand souvenir de ces trois-là.
Si vous voulez lire, pardon, du Scott Snyder chez Marvel, c'est dans Iron Man noir.
Ouais, bah Iron Man noir, moi j'avais pas trouvé ça sans sas, perso. De même que Daredevil. Enfin, celui-ci pour moi est complètement dispensable. Mais bon, il sort, donc je préfère le signaler quand même. Nous avons aussi le Essential Wolverine, puisque c'est la semaine Wolverine hein, cette fois-ci. Le Essential Wolverine volume 7 qui sort, avec dedans les épisodes 129 à 148, ainsi que le Hulk 8, puisqu'il y avait un petit crossover entre les deux séries. Bon, sympathique comme d'habitude pour $20. Vraiment pas cher. Bon, ça reste du noir et blanc, rappelons-le, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas la collection Essential, mais ça vous permet d'avoir tout un tas d'épisodes pour vraiment pas cher. Et le style noir et blanc convient bien, quand même. Et enfin, pour terminer, nous avons Wolverine First Cuts, puisque, comme c'est annoncé sur la sollicitation, c'est pour se préparer à la sortie du film The Wolverine, hein, qui sort fin du mois ou début du mois prochain, je ne sais plus, aux États-Unis. Et bien là, il prévoit le truc avec tout un tas de petits épisodes qui sont collectés dedans. Alors attention, c'est vraiment pour vous présenter uniquement ce que vous allez voir dans le film. On a dedans X-Men Origins Wolverine 1, on a le Uncanny X-Men 118-119, le Wolverine 1 et 2 de la mini-série de Frank Miller, hein. Donc juste les deux premiers sur quatre, pour présenter par exemple le Silver Samurai. On a le Marvel Team-Up 83 à 85, et puis du matériel qui vient de Best of Marvel Comics. Un petit peu tout, histoire de vous présenter des personnages comme Viper, comme Silver Samurai, Black Widow, Nick Fury, Le Shield, Spider-Man.
C'est pour, voilà. C'est pour les pauvres en fait qu'on n'a pas pu s'acheter la Adamantium Collection.
Ouais, les pauvres, hein, ça vaut quand même $20 pour cette espèce de petit pot pourri qui... pour moi, n'est peut-être pas la meilleure façon de découvrir le personnage.
Bah, surtout mettre des arcs qu'on pas complets.
On n'a pas d'histoire complète.
Ah bah oui, c'est pour présenter, mais ça, c'est la technique Marvel, c'est pour appâter le client. C'est comme la drogue.
Tu vas racheter le TP à $20 et après tu vas aimer les histoires et tu vas racheter tous les TP de tous les trucs où t'avais que la moitié de l'histoire.
Puis tu voudras le refourguer d'occasion pour essayer de t'en séparer et te refaire un peu de blé pour t'acheter d'autres TPB. Tu arriveras à le vendre à $5 si t'as de la chance sur eBay. Donc vous avez compris, un peu dispensable, surtout pour $20. Je pense que s'ils avaient fait un produit d'appel vraiment pas cher, quelque chose comme une dizaine de dollars, ça aurait peut-être valu le coup pour pouvoir tester. Mais là, bon.
Moi, un free comic book day.
Bah, tu peux pas te permettre de vendre un TP en free comic. C'est vrai que oui, pour appâter le client, ce serait la meilleure chose à faire. Ce genre de produit, ce serait très bien de le retrouver, par exemple, à la compagnie du Blu-ray.
Ouais. Ouais,
ce serait une très bonne chose. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même un coût d'impression, etc. Donc, on peut le comprendre. Maintenant, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde d'avoir des bouts d'histoire. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Une émission un peu plus courte, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps cette semaine, malheureusement. Hein, nos emplois du temps n'arrivaient pas à coïncider. On vous a présenté la majorité des choses intéressantes. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à nous les faire partager en commentaire, hein, vos petits coups de cœur ou coups de gueule de la semaine. Hein, n'hésitez pas aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine sélection de reviews. Et puis, vous nous retrouvez bien sûr mardi pour le Weekly News avec les dernières infos, comics et dérivés. D'ici la semaine prochaine, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous réécoutez tous les anciens épisodes. Enfin, pas tous, hein. Quoique. Vous réécoutez tous les anciens épisodes pour la prochaine fois. Allez, c'est le devoir de vacances. Ben, vous pouvez les réécouter sur le site, sur iTunes ou sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Lisez plein de comics.
Ouais, c'est bien.